Décidément, la junte burkinabé est décidée à mettre à l'eau tout ce que l'armée, le gouvernement de Kabore et les forces de défense volontaires avaient semé durant toutes ces dernières années au Burkina Faso. L'armée du Burkina Faso va accorder un délai de 14 jours aux populations de deux zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite dans le nord et l'est du pays afin de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Lundi, le Conseil supérieur de défense nationale a décidé de la création de ces sites, l'une dans la province du Soum frontalière avec le Mali et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre Pama et le parc du W-Est. Le chef de la junte devient effectivement un vecteur des Occidentaux afin de pousser la population à quitter ces régions stratégiques pour ensuite aplanir le terrain, un déploiement massif et installation des bases militaires occidentales. L'Est et le Nord du Burkina sont concernés par cette nouvelle décision, soit les frontières avec le Bénin et toute la zone des trois frontières. Le fait de pousser la population à quitter ces régions ne fait que de mettre en œuvre le plan déstabilisateur de l'ex-US OTAN qui cherche depuis des années à s'installer dans les régions des trois frontières et qui voit désormais leur rêve se réaliser avec cette nouvelle décision de la junte burkinabé. D'ailleurs, une autre information concernant le déplacement de la population prouve à quel point cet exode est crucial pour l'axe occidental, puisqu'il semblerait que l'attaque terroriste lui a fait 86 morts dans la nuit du 11 au 12 juin contre la commune de Seitenga, dans la province du Seno, dans le Sahel burkinabé, a occasionné le déplacement de plus de 26 000 personnes vers la ville de Dori, le chef-lieu de la région du Sahel, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Cette attaque armée a occasionné plus de 26 000 personnes déplacées qui ont tout abandonné pour rejoindre les populations résidentes de Dori, déjà confrontées à des défis socio-humanitaires importants, a déclaré Laurent Soghi, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Burkina, lors d'une conférence de presse tenue jeudi soir à Dori, à une trentaine de kilomètres de Seitenga. Mais comment pourrait-on faire face à cette situation? L'exemple du Mali ou encore de la RDC peuvent être très bien reproduits au Burkina. Le fait de se faire aider par les Africains et Sahéliens, de créer des coalitions interafricaines et donc de se détacher de toute confiance et alliance avec l'axe occidental. Les Africains ont prouvé à maintes reprises que le fait de se fier à eux-mêmes et d'épauler les armées nationales apportera ses fruits et il est effectivement temps que le peuple burkinabé, brave et souverainiste qu'il est, se relève et reproduise le scénario du convoi français pendant lequel il a résisté main nue face au convoi de l'ennemi sans avoir froid aux yeux. Kiev, qui estime que les capitales africaines sont capables d'influencer la position de Moscou, alerte sur une crise alimentaire prolongée sur plusieurs années si le blocage des céréales devait perdurer dans les prochains mois. Mais est-ce réellement la Russie à l'origine de ce boycott? Bien sûr que non. En effet, avec le début de l'opération spéciale russe en Ukraine et par la suite, des sanctions infligées contre Moscou à cet égard, l'Occident est confronté à une véritable crise où les prix des denrées alimentaires ont atteint des niveaux records dans le monde entier. La Russie et l'Ukraine sont les plus grands exportateurs de céréales. Et la guerre et les restrictions anti-russes ont porté un coup sévère aux approvisionnements agricoles. Si la restriction et les sanctions frappent également le secteur de l'énergie et de l'approvisionnement en engrais chimiques, la crise s'aggravera et touchera directement le premier monde. Malgré les sanctions et les restrictions, les responsables russes affirment que Moscou ne renoncera pas à ses engagements alimentaires. Dans ce cadre, Dmitri Berichevski, directeur du Centre des coopérations économiques au ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview « La Russie reste un acteur fiable sur le marché alimentaire mondial. Nous remplirons toutes nos obligations internationales dans le cadre de tous les contrats d'exportation, peu importe à quel point cette tâche sera difficile à accomplir. » Effectivement, c'est l'Occident qui utilise cette affaire pour pousser les Africains à s'aligner sur ses positions anti-russes, puisque jusqu'ici, les Africains ou au moins une grande partie des Africains ont refusé de s'aligner sur les politiques occidentales et de s'opposer à la Russie. Beaucoup de médias mainstream ont déclaré que le conflit entre la Russie et l'Ukraine avait divisé l'Afrique. Cela n'est absolument pas vrai. La position de l'Afrique était très claire. Ce conflit appartient à l'Occident et non à l'Afrique. Et cela s'est fait ressentir lors du vote de la résolution du Conseil de l'ONU. Beaucoup de pays africains ont opté pour l'abstention, ce qui a fait paniquer l'Europe. Et les pressions de l'UE ont donc commencé avec même des menaces de sanctions, essayant par la même occasion de créer une division au sein de l'Afrique. Alors que les pays africains restent majoritairement fidèles à leur approche de non-alignement aux politiques occidentales face au conflit russo-ukrainien, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a suggéré l'organisation d'une grande conférence Ukraine-Afrique et la nomination d'un représentant spécial pour le continent. L'Afrique est otage de l'intervention russe en Ukraine, à l'origine de fortes perturbations dans les chaînes mondiales d'approvisionnement alimentaire et agricole, a estimé le président ukrainien Zelensky lors de son adresse par visioconférence à l'UA dans l'après-midi du lundi 20 juin. Comme toujours, l'Europe se base sur l'Afrique pour s'en sortir. Mais l'Afrique est-il réellement l'otage de la Russie ou c'est plutôt l'inverse, dans le sens où ce sont les Occidentaux? Autrement dit, les néocolonialistes qui ont pris les pays africains pour leurs colonies et otages pendant des décennies. Il est évident que l'Occident cherche à faire payer à l'Afrique ses choix indépendantistes via cette affaire ukrainienne, mais il est loin de l'atteindre. Ce vendredi 24 juin, les représentants des pays du Commonwealth vont se rencontrer à Kigali. C'est l'ouverture officielle ce matin de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation qui comporte 54 pays, dont 19 africains. Il s'agit du premier sommet de ce type depuis 4 ans. Vers où se dirige le conflit RDC Rwanda? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Écoutez, l'association, l'Union régionale, qui est l'Union des États d'Afrique centrale, est intervenue. Elle est très préoccupée puisque vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle la guerre mondiale du Congo en 1998, et qui avait inclus tous les voisins de celle-ci, déstabilisant profondément la région. La situation est aux limites de la guerre entre le Rwanda, la RDC, mais aussi l'Ouganda. Il y a donc une réunion qui s'est tenue à Nairobi avec la participation de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, et ils ont trouvé une solution qui est l'envoi d'une force de stabilisation africaine, donc pas des casques bleus. Le Congo a exigé que le Rwanda ne soit pas partie prenante. C'est un désaveu de Kagame, puisque c'est reconnaître que Kagame est directement impliqué dedans. Par contre, c'est une demi-réhabilitation de l'Ouganda, puisque Tshisekedi accusait également l'Ouganda de soutenir le M23, et la ville dont s'est emparé le M23, elle est à la frontière de l'Ouganda, mais l'Ouganda, visiblement, et dans le processus de pacification. Donc, le Kenya s'est démené dans l'histoire. Il y aura également les autres pays qui interviendront. Il faudra voir surtout quelle va être la position du Burundi. Jusque maintenant, depuis 25 ans, l'État dominant dans la région des Grands Lacs, c'est le Rwanda, qui est la porte d'entrée des Occidentaux. Mais aujourd'hui, depuis 2015, il y a le Burundi qui est la porte d'entrée du bloc de l'Est, c'est-à-dire des Russes et des Chinois, et qui joue de plus en plus un rôle diplomatique et géopolitique important. Il faut donc voir, et le Burundi lui-même est intéressé évidemment à la stabilisation de la situation en RDC, puisque les zones concernées, le Katanga, l'Ituri, le Kasaï et le Tanganyika, ce sont des zones frontières également avec le Burundi qui est déjà intervenu militairement. Il faudra donc voir quel va être le rôle de ceux-ci. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que le spectre de la guerre, au moins momentanément, est en train de s'éloigner. Mais deux choses à retenir. Donc, il va falloir voir quelle va être la réaction des Américains, puisque eux souhaitaient que la situation s'aggrave et qu'il y ait une déstabilisation continue du Congo. Mais surtout, c'est le désaveu pour le Rwanda de Paul Kagame. Ça fait un domaine de plus dans lequel le Rwanda est en pleine déchéance géopolitique. C'est-à-dire, je vous ai dit, il y avait eu une guerre en 1998 qu'on appelle la guerre mondiale du Congo. Elle avait vu les 10 pays voisins, puisqu'il y a 10 pays voisins, tous intervenir militairement, en particulier l'Angola, l'Ouganda et le Rwanda. Et il y avait 10 forces politico-militaires qui étaient intervenues. L'Ouganda, elle fait partie de ces États qui maintenant jouent un jeu de bascule géopolitique entre le bloc occidental et le bloc de l'Est. Les liens sont encore très forts, notamment avec les anglo-saxons, mais il y a des rapprochements ponctuels avec le bloc de l'Est. Ces gens-là, évidemment, n'ont pas choisi entre le bloc occidental et le bloc de l'Est. Mais l'Ouganda n'a rien à gagner, évidemment, contrairement au Rwanda, n'a rien à gagner d'une nouvelle guerre au Congo, pas plus que l'Angola, qui est la grande, plus que le Burundi. D'ailleurs, d'où l'inquiétude de tous ces gens et la mobilisation de l'Union africaine.
Le président de la transition entérine donc le texte adopté par le Conseil national de transition, l'organe législatif, il y a une semaine. Un document crucial pour la suite de la transition et notamment une éventuelle levée des sanctions contre le Mali. Assimi Goïta fait finalement pencher la balance du côté du Conseil national de transition. En promulguant la nouvelle loi électorale, le président malien entérine donc les 92 amendements que le CNT avait imposés aux 219 articles du texte, aux grandes dames du gouvernement, auteurs du projet. La nouvelle loi électorale compte ainsi des dispositions controversées, comme celles concernant l'autorité indépendante de gestion des élections, dont 3 des 15 membres seront désormais nommés par Assimi Goïta lui-même. Avec cette promulgation, les autorités de transition voulaient démontrer leur volonté d'avancer vers un retour à l'ordre constitutionnel. Le pouvoir avait en effet promis qu'une fois cette loi en place, le gouvernement pourrait présenter rapidement à la communauté ouest-africaine un calendrier avec le détail des étapes jusqu'aux élections qui doivent en théorie consacrer le retour des civils au pouvoir. Or, justement, la CEDAO se réunira le 3 juillet prochain à Accra et décidera du maintien ou non des lourdes sanctions qui frappent le Mali depuis le 9 janvier. MJN Leadership School a accueilli début juin sa première promotion composée de 120 étudiants amenés à accéder aux plus hautes responsabilités au sein des partis au pouvoir dans 6 pays africains. Le Parti communiste chinois a financé une école dédiée à la formation des futurs dirigeants des partis au pouvoir en Afrique à hauteur de 40 millions de dollars. Baptisée Mwalimu Julius Inyerere Leadership School, elle a été implantée à Kibaha, une ville située à 40 km à l'ouest de la capitale tanzanienne, Dar es Salaam. L'école a été construite par les partis au pouvoir de 6 pays africains que sont la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie et l'Angola. Le financement additionnel qui permettra son fonctionnement sur le long terme est assuré par le Parti communiste chinois, par l'intermédiaire de son département de liaison internationale, la section chargée de promouvoir l'idéologie communiste chinoise à l'étranger et la diplomatie partisane. Le Parti communiste chinois a établi des relations avec 110 partis politiques dans 51 pays africains, d'après un livre blanc publié par Pékin lors du 8e forum sur la coopération sino-africaine, tenu en novembre 2021 à Dakar, au Sénégal. La Mauritanie est l'un des principaux producteurs de minerais de fer en Afrique et un fournisseur non négligeable d'or. Le secteur minier de ce pays peut encore se diversifier avec l'entrée en production de la mine d'uranium Tiris, dans un contexte de regain d'intérêt pour le combustible nucléaire. La compagnie minière australienne Aura Energy a publié le jeudi 23 juin les résultats de la phase pilote de l'usine d'enrichissement de sa future mine d'uranium Tiris. Il démontre, apprend-on, que le minerai du projet mauritanien peut se conformer aux spécifications annoncées dans l'étude de faisabilité DFS. Alors que la DFS tablait sur une concentration d'uranium de 1500 à 1600 parties par million ppm d'uranium, U3O8, les tests réalisés en Afrique du Sud ont en effet permis d'atteindre une moyenne de 1572 ppm d'U3O8 par rapport à la moyenne de 285 ppm d'U3O8 enregistrée lors de précédents essais. Cela représente une hausse de 550%. Le minerai testé provient, faut-il le souligner, de trois zones du projet représentatif des cinq premières années d'exploitation de Tiris. En Guinée, un dialogue censé aplanir les divergences entre la junte et les acteurs sociopolitiques va s'ouvrir le 27 juin prochain. Ce rendez-vous crucial suscite de l'espoir chez bon nombre de Guinéens, alors que ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran dans le pays. En prélude à l'ouverture de ces concertations, qui seront pilotées par Mohamed Béavogui, Premier ministre, le président de la transition a donné de nouvelles orientations à son gouvernement quant à la conduite du dialogue. Ce jeudi 23 juin 2022, lors du Conseil des ministres, le colonel Mamadi Doumbouya a rappelé que, conformément aux engagements pris depuis le 5 septembre, de faire de l'inclusivité le cheval de bataille dans la conduite de la transition, un décret en date du 6 avril 2022 a créé le cadre de concertation inclusif. Convaincu que c'est par l'inclusivité que les Guinéens réussiront à surmonter les nombreux défis du développement, le président de la transition guinéenne a invité son gouvernement à être à l'écoute et à recueillir les avis des Guinéens. Ce, afin que la transition puisse continuer à répondre à leurs légitimes aspirations, a indiqué le porte-parole du gouvernement.